There are many people who really don't understand what is the great issue between the free world and the communist world. Let them come to Berlin.
Génération, c'est pour avouer à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se dépasse.
Radio n'étant pas télévision, nous ne pouvons pas offrir à l'auditeur ce que nous aurions offert aux téléspectateurs, c'est-à-dire des images.
Et tandis que là-bas, du Capitole, le couvre-feu mortuaire sonne en volée plus violente et que la psalmodie des foules grandit comme le bruissement d'une mer, de la basilique lumineuse où prient les évêques et les saints prosternés devant les reliquaires, sort, avec une majesté triste, un chant nouveau. Parque Domini, Parque Populo Tuo. Le pape a relevé la tête, il appelle à lui l'empereur, lui montre du doigt le signe des étoiles, le signe de Dieu et l'embrasse. Alors la voix de bronze paraît s'engloutir au fond du brouillard lointain. Sur le Coelius et dans Saint-Jean-de-Latran, les chants de terreur, l'appel à la pitié du Seigneur se taisent tout à coup. L'an 1000 avait passé.
Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans Transhistorien, l'émission historique à retrouver chaque mercredi sur Transistor. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Sylvain Guggenheim. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire médiévale à l'ENS de Lyon. Vous êtes venu nous parler de votre ouvrage Les fausses terreurs de l'an 1000 que je laisse à Clément le soin de présenter.
Merci Mathilde. Donc Les fausses terreurs de l'an 1000, c'est un ouvrage qui a été publié en 1999 et qui se propose d'explorer le grand débat historiographique qui est celui des terreurs de l'an 1000. Alors très rapidement, c'est l'idée selon laquelle des peurs auraient agité les populations à l'approche du millénaire, une peur de la fin du monde, de la fin des temps, du jugement dernier. Alors brisons tout de suite le suspense pour vous, chers auditeurs. Donc Sylvain Guggenheim, vous concluez que la peur de la fin des temps aux alentours de l'an 1000, c'est un fantôme. Après une reprise des sources et des textes, pour comprendre un petit peu ce qu'on leur a fait dire précédemment.
Ah ouais, alors Clément l'a rappelé, vous positionnez très clairement en faveur de l'idée que rien dans les sources ne soutient l'idée d'un sentiment de peur chez les individus de cette époque. Est-ce que vous pourriez pas rappeler, pour les auditeurs les moins au fait sur ce sujet, à partir de quelle modalité s'est construit ce mythe en fait ?
Alors il y a deux visions finalement. Il y a une vision qui a consisté à dire que les gens ont vraiment eu peur de la fin du monde en l'an 1000 ou les années immédiatement précédant l'an 1000. Et puis cette vision est apparue vraisemblablement au XVIe siècle à partir de textes médiévaux qui avaient été mal lus ou lus de manière tronquée. Et puis il y a une deuxième vision qui s'est développée sous la plume donc d'historiens, dont Georges Duby, mais pas seulement, et qui a consisté à dire il n'y a pas eu de peur vraiment en l'an 1000, mais il y a eu pendant des décennies une espèce d'angoisse diffuse, c'était l'expression de Georges Duby, qui imprégnait les populations et dont on trouve des traces ou directes ou indirectes dans les sources.
Donc vous revenez sur l'Apocalypse, ce dernier livre de la Bible dans lequel nous avons le récit du jugement dernier et de la fin des temps, et vous consacrez un développement au chiffre 1000 que l'on a dans l'Apocalypse, ce livre qui annonce le jugement, je résume à très gros traits, après 1000 ans de ravage sur Terre par Satan, aurait pu servir aux hommes de l'an 1000 pour avoir peur de la fin, avoir peur que la fin des temps arrive autour de l'an 1000, et vous expliquez que ce livre a pourtant été commenté par Saint Augustin, et qu'en se fiant à ce commentaire, il n'est pas possible de prendre ce chiffre de 1000 ans de manière littérale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette manière d'appréhender ce livre de l'Apocalypse ?
Alors, d'une part, donc, l'idée que le nombre 1000 marquait une date précise, ça effectivement, ça avait été réfuté, condamné par Saint Augustin et ensuite par d'autres penseurs, parce que dans les premiers siècles du christianisme, des gens étaient persuadés qu'il fallait prendre ce nombre à la lettre. Donc, alors, une fois que ça avait été clarifié par Saint Augustin, ça avait ensuite c'était passé dans l'enseignement de l'Église, donc c'était diffusé un peu partout. Dès que éventuellement des gens se posaient des questions, et de toute façon on n'a pas vraiment l'impression que beaucoup de gens se posaient la question. La deuxième chose, c'est qu'on ne compte pas forcément en fonction de l'ère de l'incarnation, qu'on a plusieurs manières différentes de se repérer dans le temps, que l'ère de l'incarnation c'est l'une des manières de compter les années, mais on compte souvent à partir des années du début du règne d'un roi, du début de l'avènement d'un évêque ou d'un prince. Donc la grande majorité des gens en fait ne savaient pas qu'ils vivaient en l'an 1000 ou en l'an 998 ou en l'an 1002, etc. Donc vous avez, je dirais, toute une série d'obstacles qui empêchent que la grande majorité des gens se soient focalisés sur l'année 1000. Ensuite, le nombre 1000 a été expliqué par saint Augustin et était toujours expliqué par l'Église comme signifiant beaucoup et étant finalement symbolique de un grand nombre d'années et qu'il ne fallait donc pas le prendre à la lettre. Ça n'a pas empêché de temps à autre des individus de le prendre à la lettre, mais là, les exemples qu'on a dans les sources sont infimes, très peu nombreux.
Oui. Et donc, en conséquence de cela, toute utilisation de l'Apocalypse dans les sources, dans les textes, dans le mille, n'est pas un signe d'une peur. Et donc, vous expliquez que l'utilisation de ce livre, on utilise ces textes avec une volonté pédagogique et politique derrière, finalement, pour rappeler des choses aux contemporains.
Oui, c'est-à-dire que, de toute façon, il y a plusieurs degrés de lecture de tous les textes bibliques et évangéliques, donc on peut les interpréter de plusieurs manières différentes. Ensuite, l'Apocalypse était surtout considéré comme un document qui permettait de comprendre l'époque présente, et sinon qui parlait du jugement dernier. Donc, mais le christianisme était une religion de salut, donc ça va se finir par la fin des temps et par un jugement dernier. Donc tout le monde était bien persuadé qu'il y aurait une fin du monde, qu'il y aurait un jugement à l'occasion de cette fin du monde, mais sans indiquer de date. Donc quand on utilise l'Apocalypse, c'est pour rappeler aux gens qu'ils doivent faire attention dans la vie qu'ils mènent sur Terre, qu'ils doivent faire attention à ne pas commettre de péché, etc., qu'ils ont tout intérêt à sauver leur âme, parce que le jour du jugement, leur âme sera envoyée ou en enfer ou au paradis. Mais on ne disait pas que le jour... Ce n'est pas parce qu'on parlait de ça régulièrement qu'on pensait que le jour du jugement était imminent.
Oui, oui, oui.
Simplement, il vaut mieux enseigner ça aux gens pendant qu'ils sont vivants. Une fois qu'ils se rendent, ce sera trop tard.
Oui,
donc il faudra le faire, il faut donc le faire régulièrement. Voilà pourquoi on en parle beaucoup. C'est nécessaire.
Oui, donc ça rentre vraiment dans le cadre de l'enseignement de l'Église et de la christianisation des populations.
Alors, j'ai une petite question à interpeller. Alors, vous êtes inédiviste. Est-ce que vous savez, par contre, si à d'autres moments qu'à l'an 1000, il y a eu des craintes, alors on ne pourrait pas dire millénaristes, mais des craintes de fin du monde imminente au Moyen-Âge ou à d'autres moments?
Il y a des mouvements millénaristes vraiment importants au XVIe siècle. Ça s'est bien montré à l'époque des guerres de religion, quand vous prenez les travaux de Denis Crouzet, par exemple, ou d'autres. Donc là, il y a des mouvements millénaristes forts. Il y a des attentes de la fin du monde ou des diffusions de prophéties millénaristes ou disant la fin du monde est proche au Moyen-Âge, plutôt un peu au XIIIe siècle de temps à autre et au XIVe, XVe siècle. Plus il y a des périodes de troubles vraiment importantes. Il n'y en a pas trop autour de l'an 1000, effectivement. Il y a des vagues de millénarisme, d'attentes inquiètes de la fin des temps. On en repère également à la fin du Bas-Empire ou au Moyen-Âge, encore que c'est un peu plus difficile à cerner. Donc ça existe, effectivement. Je me dis que ça n'avait jamais existé. Sauf qu'autour de l'an 1000, non, il n'y a pas grand-chose.
Alors, une question qui traite peut-être plus du métier d'historien. Vous vous rappelez assez régulièrement, il me semble, que il y a une grande part d'interprétation et de subjectivité dans la lecture de ces sources.
Oui.
Alors, vous avez publié cet ouvrage il y a 15 ans. Est-ce que aujourd'hui, vous avez peut-être un point de vue différent sur certaines sources, peut-être nourries par d'autres travaux historiques que vous avez fait depuis?
Oui, tout à fait. Pour l'essentiel, je ne changerai pas le livre, la thèse principale du livre. En revanche, il y a un texte que j'ai mal expliqué. Quand j'ai fait le livre, je me rendais compte que je tournais autour de ce texte et que je ne trouvais pas la clé. C'est-à-dire que j'avais présenté toutes les interprétations existantes de la part des autres historiens. Je proposais la mienne, mais je sentais que la mienne était boiteuse. Et je n'arrivais pas à trouver la solution. Et j'ai trouvé la solution, en fait, en proposant ce texte ici au cours d'entrée de l'école. C'est le texte de Ranulf Glaber sur le pèlerinage à Jérusalem en 1033. Et en refouillant le texte à l'occasion de ce concours, en préparant le corrigé, en fait, pour les collègues qui devaient corriger l'écrit, je me suis rendu compte que j'avais pas assez bien lu le texte de près. Et notamment, j'avais pas fait attention à un terme. Ranulf Glaber dit non pas en 1033 mais à cette époque là vers cette année là donc en fait dans un ensemble d'années, il signale donc qu'il y a beaucoup de gens qui vont à Jérusalem en pèlerinage, et il dit certains clercs on s'est demandé pourquoi. Certains clercs ont dit que c'était un présage envoyé par Dieu annonçant ce qui se passerait à la fin du monde, et il ajoute que il ajoute un autre élément, il faudrait prendre le texte pour savoir si tout le monde serait sauvé ou pas. Bon, c'est là-dessus qu'il se prononce pas, mais j'oublie la deuxième partie du texte. Mais la première partie, l'idée du présage est très claire. Moi, je l'avais pas compris. Donc le texte avait été lu par certains historiens disant si tout le monde va à Jérusalem, c'est parce qu'ils ont peur de la fin des temps. D'autres historiens ont dit les gens vont à Jérusalem, et des clercs ont dit ah, c'est le signe que la fin des temps est proche. Et en fait, l'éclair en question, c'est Glaber, et ce que dit Glaber, c'est un présage envoyé par Dieu. Autrement dit, il fallait comprendre ce que nous disait Glaber, le fait que beaucoup de gens vont à Jérusalem en ce moment, ce phénomène est voulu par Dieu, comme tout ce qui arrive sur Terre, et c'est pour nous rappeler que le jour où la fin du monde arrivera, tout le monde ira à Jérusalem. Et il utilise bien le terme de présage. En gros, ce qui se passe maintenant, c'est une espèce de film qui est projeté par Dieu, alors dont les acteurs sont les êtres humains, un film qui est projeté par Dieu et qui nous rappelle qu'un jour il y aura un jugement dernier et que le signe de l'approche de la fin des temps, ce sera ça. Donc c'est pas maintenant la fin des temps va arriver, c'est voilà ce qui se passe là, eh bien c'est un signe. Et tout le livre de Glaber, toutes les histoires de Glaber est construit autour du repérage de tous les signes envoyés par Dieu pour célébrer le 1000e anniversaire de la naissance du Christ et le 1000e anniversaire de sa passion. Donc autour de 1000 et autour de 1033. Et donc il fait un livre d'histoire qui est complètement orienté par ce thème. Donc il repère des signes. Et rien dans son livre, en fait, n'atteste qu'il pense que la fin du monde arrive en 1033. En plus, il l'a écrit entre 1040 et 1045, donc c'était passé. Et voilà, ça c'est un exemple de texte que j'ai pas assez bien lu et qu'il faudrait reprendre. Et puis, je me suis pas non plus forcément toujours tenu au courant, mais j'ai regardé un peu ce qui avait été fait par un des historiens avec qui j'avais débattu un peu vivement, là, Richard Landes, mais en fait, on s'entend bien par ailleurs, et j'ai regardé ce qu'il a continué à faire, et bon, il a une lecture, on est toujours en désaccord complet, mais il a une lecture intéressante, bon, avec laquelle je suis pas d'accord, mais lui, il a continué à publier là-dessus.
Alors c'était justement ma question, oui. Transition magnifique. Alors pour les auditeurs qui n'auraient pas lu le livre, est-ce que vous voulez bien d'abord dans un premier temps résumer un peu la thèse de cet auteur américain justement ?
Alors la thèse de Landes qu'il a développée dans beaucoup d'ouvrages, en gros consiste à dire que il y a eu vraiment une très forte inquiétude de la fin des temps autour de l'an 1000, comme il y en a eu à d'autres périodes, mais que cette inquiétude a été volontairement mise sous le boisseau par l'Église. Donc qu'il y a, il le dit dans un de ses articles, une conspiration du silence organisée par les clercs et par l'Église pour couper l'herbe sous le pied au mouvement millénariste. Donc on ne parle pas de ça, et du coup par exemple, eh bien, on efface dans les textes les allusions à l'an 1000, on s'arrange pour faire disparaître cette date des tables de compute chronologiques, etc. Et il dit que si on arrive à lire les textes en ayant ça en tête, et si on arrive à lire les textes entre les lignes, on s'aperçoit que la peur de l'an 1000 existe. Elle est absente, mais elle existe. Et elle est absente parce qu'elle a été refoulée, effacée, écartée. Bon, ce que j'avais appelé, c'était une plaisanterie, je me suis dit, c'est un peu Big Brother. Imaginez, enfin, j'avais dit que ça fait un peu du Big Brother à l'époque médiévale, bon, et j'arrive pas à y croire. Alors cela dit, il déploie beaucoup de sagacité et d'astuces dans la lecture qu'il fait des textes. Hein. Mais je suis pas convaincu.
Et le Big Brother dans cette théorie, donc c'est l'Église.
Alors le Big Brother serait l'Église, ouais. L'Église, de façon à. Parce que l'Église a toujours lutté effectivement contre le millénarisme, et donc Landes étant persuadé que cette idée millénariste en fait avait imprégné les foules, et que l'Église avait très peur que ça donne des débordements, et des peurs incontrôlables, des paniques, donc avait voulu, finalement, dans un souci d'ordre social, couper tout moyen de nourrir cette peur.
Oui, et cela nous rappelle vraiment que l'Église est là pour accompagner le spirituel, mais aussi le temporel. C'est vraiment un moyen d'organisation sociale, un cadre
de l'époque,
de l'organisation
sociale.
Oui,
parce que vous êtes toujours dans la ligne du bas empire romain et du monde carolingien, donc les évêques ont des responsabilités politiques. Ce qui ne veut pas dire que les États ou les rois soient soumis à l'Église, c'est différent. C'est pas le pape qui gouverne, c'est bien les rois ou les princes qui gouvernent, mais les gens qui sur place, en gros, jouent le rôle des préfets, c'est ou des comtes, ou des grands féodaux, ou des évêques. Les évêques doivent veiller à leur cité, donc approvisionnement, hygiène, sécurité contre des envahisseurs, etc. Et donc, ils ont un rôle d'ordre public.
Très bien. Alors, pour revenir un peu à Landes et d'une manière générale aussi aux historiens dont vous critiquez les thèses, enfin vous positionnez contre eux, est-ce que vous avez un conseil à donner ? Comment est-ce qu'on fait comme ça pour penser contre soi quand on écrit un livre d'histoire et enfin arriver à la fois à comprendre la théorie de la personne avec qui on n'est pas d'accord et à réussir à la restituer tout en démontrant en quoi.
Tout en pensant ensuite contre elle.
Bah, je pense qu'il faut. Déjà, faut pas avoir de querelle personnelle à régler, je trouve que c'est la meilleure des choses. Donc, on prend les travaux des autres historiens en respectant ce qu'ils ont fait. Pour moi, le point de départ, c'est qu'en fait, je me suis posé un problème. J'ai une formation scientifique au début, donc j'ai tendance à réagir toujours comme ça. Donc, l'histoire pose des problèmes, ou on se pose des problèmes, on regarde comment ils ont été traités par d'autres, et on regarde les sources. Et, où on est convaincu par ce qu'on fait les autres, ou on n'est pas convaincu sur une interprétation d'ensemble ou un point de détail. Et après, la moindre des choses, c'est d'être honnête, de respecter ce que les autres ont dit. De toute façon, à mon sens, si on veut réfuter une interprétation, il faut déjà la restituer correctement. Sinon, on ne la réfute pas. Ça devient de la polémique.
Et alors, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui seraient de jeunes historiens en devenir, en train de rédiger leur mémoire, leur thèse, ou que sais-je encore. Au long de votre livre, vous reprochez souvent à des historiens d'avoir formulé une hypothèse de départ, d'avoir cherché à la vérifier à tout prix, en plaquant artificiellement sur les sources un sens qu'elles n'ont pas. Par exemple, je crois que les médiévaux étaient convaincus de la fin du monde pour l'an 1000, donc je trouve des preuves de cette peur millénariste, donc cette peur a existé, ce qui est un peu un raisonnement circulaire, donc qui ne peut pas marcher. Quel conseil vous donneriez à de jeunes historiens pour éviter de prendre son hypothèse de départ pour une vérité et pour toujours rester dans une démarche prête à admettre que ce qu'on pensait au départ n'était pas la réalité?
Bon, c'est exactement ce que vous venez de dire. J'ai rien à rajouter. Non, mais c'est très bien dit. C'est ça. Moi, il m'est arrivé de revenir, que ce soit sur l'an 1000 ou sur d'autres choses, mais des choses sur lesquelles je travaille en ce moment. Je finis par me faire une idée d'un phénomène ou même de la lecture d'un texte, et je peux garder cette idée pendant des mois ou des années, et puis à un moment, dire bah, tiens, non, ça colle pas. Ou je change d'idée, ou je me suis aperçu que j'avais commis une erreur ou une inexactitude, etc. Donc, il faut avoir des hypothèses. Il faut émettre des hypothèses parce que ça guide la réflexion, ça guide les questions. Il ne faut jamais oublier effectivement que ces hypothèses sont des hypothèses. Donc tant qu'elles ne sont pas démontrées, ça reste une hypothèse. Et on peut trouver 50 indices qui vont dans le sens. Mais si on trouve un indice, si on trouve un contre-exemple, ça suffit à démolir la théorie, il faut être logique. Donc il faut être toujours prudent. Au bout d'un moment, on a le droit de s'estimer raisonnablement convaincu par sa propre hypothèse, parce qu'on a l'impression d'avoir quelque chose qui tient la route, et d'avoir apporté suffisamment d'éléments, et on peut très bien s'apercevoir après qu'on s'est trompé. Donc il faut avoir des hypothèses, il ne faut pas s'y accrocher dur comme fer, il faut les tester, il faut les soumettre à la lecture des textes, à la lecture des autres historiens. Et je dirais justement, quand on tombe sur des travaux qui ne sont pas d'accord, c'est toujours intéressant, parce que vous avez forcément donc quelqu'un qui a lu les documents autres noms que vous, qui aura vu la même chose que vous, parce qu'assez souvent il y a quand même des points communs. On va tous voir dans les textes les mêmes choses, et puis il y a des endroits où on diverge, et c'est les endroits où on diverge qui sont intéressants, et c'est là où on va tester son hypothèse, on teste aussi celle de l'autre, et on essaye de dire des choses qui soient exactes. Vous m'avez laissé le mot de la fin il y a... mais c'est pas une obligation. Il m'avait laissé le mot de la fin, c'était mon AU qui avait fait ça, et Antoine Riveau. J'avais préparé le truc, j'ai trouvé une phrase dans le dernier livre de Camus, Le Dernier Homme, quand il parle de son instituteur, mais j'ai oublié la phrase. Mais il avait une très très belle phrase sur son instituteur, et en fait c'est sur le métier d'enseignant et sur le fait que, en gros, l'instituteur qui était exigeant avec ses élèves, mais parce qu'il estimait qu'ils étaient dignes de découvrir le monde. En gros, Camus le dit beaucoup mieux. C'est une phrase superbe, mais c'est une chose que j'arrête pas de dire en cours, donc je suis tellement convaincu que je me répète avec l'âge, mais on peut pas faire de recherche sans enseigner, et c'est bien d'enseigner aussi en faisant de la recherche. Oui. Et si on fait de la recherche, c'est pas pour soi, c'est pour que ça se transmette. Ça va être dans des livres, dans des articles, mais pour moi, une des choses les plus importantes, c'est la transmission en direct.
Et pour nos auditeurs, un petit point sur la jeunesse de l'ouvrage, puisque vous avez dû préparer une séance de TD à l'université sur ce phénomène des peurs, une séance de TD qui, vous le dites, ne devait durer que 2 heures et qui finalement vous aura occupé plusieurs années.
Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Et où, à l'occasion, j'étais en fait tombé sur une... Je crois que c'était dans Duby, j'avais mon texte, j'avais l'interprétation de Duby, je me disais, il y a un truc qui ne va pas. Et alors que jusque-là, en fait, j'avais, comme tout le monde, je trouvais que ce qu'avait dit Duby était très bien. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses exactes dans ce qu'il dit. Mais, voilà.
Mais je vous remercie d'être venu nous présenter votre ouvrage. Et merci à Clément de nous avoir suggéré cette lecture.